Installez-vous.
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 Vous êtes bien sur Radio, Radio Moulin. Moulin.
Vous êtes bien sur Radio Moulin.
Vous êtes bien sur Radio, Radio Moulin.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Nous voici en direct du studio de Radio Moulin. Si vous ne le savez pas encore, sachez que le studio est situé à la maison de quartier de Moulin, à Porte de Douai à Lille. Il est tout beau, tout neuf et il n'attend plus que vous. Vous écoutez à présent un nouvel épisode d'Incitation à l'éloquence, une émission consacrée aux artistes du quartier Moulin et celles et ceux qui les soutiennent. Ici c'est Pamela au micro et je suis accompagnée d'Emma. Salut Emma.
Salut Pamela et bienvenue à toi. Alors pour cette émission d'Incitation à l'éloquence, nous avons la joie d'accueillir ici, au studio de Radio Moulin, l'artiste lilloise Saul of Bear. Donc Saul of Bear, vous la connaissez peut-être, se définit comme une artiviste queer. Elle défend, je la cite, un projet techno en solo qui fusionne ses besoins d'expression musicale hybride et ses revendications politiques. Et derrière ce blaze se cache Camille. Salut à toi Camille et bienvenue au micro de Radio Moulin.
Bien le bonjour, c'est cool, je suis contente d'être là.
Avec plaisir. Alors avec toi aujourd'hui Camille, nous allons parler bien sûr de ton travail, de ton parcours, de ta pratique en tant qu'artiste queer dans le milieu de la musique électronique. Nous allons aussi parler de ton engagement militant et plus largement de la responsabilité politique de l'artiste. Car Soul of Bear, c'est une musique qui attise votre flamme révolutionnaire, qui vous donne envie de tout brûler, de danser, de taper du pied. Bref, une musique importante et qui fait du bien. Alors, auditeurs, préparez vos oreilles, le son de la révolte queer est là, dans les studios de Radio Moulin.
Sous nos voix, vous venez d'entendre un extrait du morceau « Fasciste », un de tes morceaux qu'on apprécie bien et qui a déjà été diffusé sur Radio Moulin. Pour l'écouter en intégralité, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le SoundCloud de Soul of Bear. Alors, avant toute chose, parlons un peu de ton projet, de ton parcours. Comment le projet Soul of Bear est-il né et depuis quand ?
Soul of Bear, ça s'est créé un peu dans ma tête il y a 4 ans. J'ai toujours fait de la musique en fait, mais j'étais plutôt instrumentiste quand j'étais plus jeune et j'avais un peu une dissonance dans mon cerveau qui j'aimais faire de la musique, j'aimais raconter des trucs, mais j'avais du mal à assumer ce que je faisais artistiquement entre guillemets, même si c'était pas comme ça que je définissais à l'époque. Mais il y avait un peu une dissonance, j'arrivais pas à assumer le fait de vouloir faire ce type de musique là. Et petit à petit, il y a eu l'arrivée de la musique électronique dans ma vie. Et aussi ma déconstruction politique qui a pris plus de place et m'a permis de me poser la question de ce que je voulais faire et de pourquoi je voulais le faire. Et du coup, Soul of Bear, c'est arrivé il y a 4 ans. Ça fait pas 4 ans que je suis, aussi calé sur ce que je balance. Mais ça fait à peu près un an et demi, 2 ans que je commence à être... contente de ce que j'ai et de ce que je veux faire, mais il y a eu tout un process. Quand j'ai commencé, j'avais même pas de logiciel en fait. Enfin, il y avait rien. J'étais juste ok, je vais faire un truc. Et pour le terme Soul of Bear, en fait, c'est venu assez naturellement sur le fait que l'ours c'est un peu un animal que j'aime bien et qui me correspond bien en termes de caractère. Et c'est une musique que je fais. En tout cas, j'ai envie de faire de la musique avec mes tripes et avec ce que je ressens. Donc il y avait un peu ce truc de Soul of Bear, ça sonnait bien par rapport à ce que j'avais envie de balancer, quoi. Voilà, donc après, il y a eu tout le développement, le temps que j'apprenne à utiliser le logiciel. À la base, j'étais plutôt sur Logic, maintenant je suis sur Ableton. Mais il y a eu beaucoup d'espaces où je parlais pas encore, je faisais pas encore de musique avec ma voix. J'ai mis du temps à utiliser ma voix. Et ça fait peut-être 2 ans et demi ou 3 ans que je commence à vraiment avoir la musique que je veux faire dans mes oreilles et donc les capacités aussi techniques pour sortir ce que j'ai un peu envie de faire, même si je suis loin encore de faire ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, niveau parcours, c'est un peu ça. J'ai toujours eu un parcours musical, mais il y a eu un peu la nécessité de prendre ce que j'avais envie de prendre, ce que j'avais appris pour l'utiliser artistiquement, et prendre ce qui se développait dans mon cerveau en termes de revendications pour en sortir quelque chose d'un peu viscéral, quoi.
Okay. Du coup, tu as pris la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, en autodidacte. Et comment tu as commencé à produire tes sons?
Ouais, je suis totalement autodidacte. Alors, récemment, j'ai fait une formation un peu sur logiciel, mais pour m'améliorer sur ce truc-là. Mais à la base, de chez base, moi, je suis pas du tout informatique. J'aime pas ça, l'informatique. Donc, j'étais pas parti non plus pour faire vraiment de la MAO. Mais puis j'ai mis du temps à m'y mettre aussi parce qu'en fait, j'aime la techno, mais j'aime pas 90% de la techno que j'entends. Il y a beaucoup de musique électronique que j'aime pas, mais pas parce que c'est mal fait, juste parce que c'est un truc qui me touche pas. Et après, j'ai plutôt compris que c'était par rapport au rythme et par rapport à ce qu'on... aux parties, à comment on structure la musique électronique qui me posait problème, en fait. Mais j'ai naturellement juste craqué un logiciel pour essayer de faire quelque chose et commencer juste à bidouiller dessus. Après, je les ai achetés, mais en tout cas, pour essayer de m'y faire un minimum, voir un petit peu si c'est quelque chose qui m'intéressait, si c'est quelque chose que j'avais envie de continuer à faire, si j'avais envie de le développer concrètement. Et donc Logic est de très beaux samples d'ailleurs, ils ont des samples très cool. Je me suis mis à juste essayer de faire des choses, des rythmes, voilà, j'ai fait des tout petits trucs, ça me prenait des mois pour faire un 3 minutes, c'était infernal, j'avais l'impression de passer 1000 ans dessus et pour pas grand chose, j'avais pas du tout de voix à l'époque et je faisais pas du tout, il y avait pas forcément de corrélation entre ce que je pensais et ce que je faisais, c'était juste un peu de l'expérimentation. Et après petit à petit il y a eu ce déclic dans ma tête qui est de commencer à penser artivisme, donc c'est-à-dire utiliser l'art comme vecteur politique, donc prendre mes idées politiques et mes revendications et les mettre dans un médium de diffusion qui est la musique et qui est quand même assez universel. Donc là il y a eu un changement de logiciel puisque Logic à l'époque ne permettait pas de faire du live, maintenant c'est le cas, mais à l'époque c'était pas le cas, donc j'ai pareil, craquer Ableton avant de l'acheter, mais pour essayer de bricoler un peu dessus. Et là, il y a eu un peu révélation en termes de sonorité et de ce que j'arrivais à faire pour structurer. Ça me permettait d'envoyer des choses, faire des boucles, de pouvoir caler mes sons, les réécouter, aller chercher des choses. Et c'était plus simple, en fait, de penser live, du coup, et de penser performance. Et c'est un peu ça qui... C'est complètement mon credo, de toute façon, mais c'est un peu l'Ableton qui m'a permis de libérer ça dans ma tête. Et après, il y a eu le fait de bosser. J'ai posé quand même pas mal de temps dessus. Et en fait, c'est comme tout, hein, ça s'apprend en faisant. Donc, j'ai, au final, la formation que j'ai faite là, récemment, c'était en décembre dernier. Donc, en fait, ou novembre dernier, je ne me souviens plus. Donc, il y a quand même eu trois ans et demi de bricolage par moi-même avant de vraiment me former dessus. Après, c'est pas des choses qui sont complètement inconnues parce que du coup, je bosse à la radio en tant que technicienne, donc la musique électronique et la technique radio, même si c'est pas la même chose, il y a quand même certaines pratiques de la technique que j'entends et que je comprends en termes de structuration du son, où va le son, comment je fais pour aller chercher ci, chercher ça, c'est des choses que je connais techniquement dans mon métier. Donc ça a été quand même assez cool de pouvoir faire cette transition-là. Et c'est un peu complémentaire, même si, pas en termes de contenu, mais en termes de pratiques techniques et d'apprentissage, ça a été assez cool pour ça.
Donc du coup, t'as vraiment consacré beaucoup de temps à la technique au début. Et maintenant, un peu plus à la partie, on va dire, militante, enfin, en tout cas aux inspirations. Et du coup, là-dessus, quelles ont été tes inspirations artistiques, politiques, etc. pour tes chansons?
Je pense qu'il y a, ma vie quotidienne, dans le sens où je suis une femme queer. Mon corps réagit vachement à l'injustice, genre je sens les choses qui... Il y a des choses corporelles qui se font, donc c'est pas illogique que je me retrouve à faire des choses en live et pas en DJ, parce qu'il y a un côté corporel à ce que je fais. Et il y a une nécessité de visibilité, une nécessité de prendre la place, une nécessité de raconter ce que j'ai envie de raconter, et ce qui apparemment résonne un peu aussi chez les gens. Donc c'est assez... artistiquement, je viens de beaucoup de choses. Musicalement, moi, je suis métalleuse à la base, donc j'écoutais beaucoup de métal, beaucoup d'instrumental. J'ai fait beaucoup d'études de musique aussi, donc il y a beaucoup de chants ethniques, des chants plus symphoniques entre guillemets, qui m'ont permis d'avoir une grande culture, dans le sens où je suis assez curieuse d'écouter des choses. Donc il y a plein d'influences qui viennent en termes d'artistes. Après, pour les artistes qui ne font pas forcément de musique, mais tout ce qui est artistes militants en général, quel que soit le support, en fait, je trouve que l'art a une nécessité politique et le politique a une jolie voix dans l'art, entre guillemets. Enfin, c'est quelque chose qui est assez fort à faire et à ressentir, donc je trouve que c'est un canal qui est quand même très cool. Concernant par contre la technique, je pense que la technique elle s'arrête jamais, c'est juste qu'il y a un moment où t'apprends suffisamment de choses techniquement pour libérer ta créativité. J'ai passé beaucoup de temps à faire des trucs qui me plaisaient mais qui étaient un petit peu linéaires, où j'avais du mal à casser des rythmes, j'avais du mal à changer de partie, parce que je ne connaissais pas suffisamment mon logiciel. Et à un moment où, alors il y a eu une partie autodidacte, mais après avec la formation ça s'est encore plus accentué en termes de qualité, mais le fait d'apprendre à connaître le logiciel a fait qu'il y a des questions que tu te poses plus, tu sais faire le truc, ah bah là je peux aller faire ça, je peux utiliser telle chose, je peux aller chercher tel plugin, tel truc, qui fait que tu te poses plus la question de comment tu vas le faire, mais plutôt de pourquoi tu le fais. Et ça c'est quand même super, et c'est à ce moment-là que Mazik a un petit peu changé en termes de sonorité et en termes de qualité aussi, purement technique. Mais c'est commun en fait. À partir du moment où tu fais de la MAO, qui est de la musique électronique, assistée par ordinateur, il y a un moment. Bon, après, j'ai des pads, j'ai d'autres matos, j'ai pas que mon ordi, mais ta technique va te permettre de libérer ce que tu as envie, parce que tu sais pas forcément que tu es capable de le faire si tu sais pas faire. Tu vois, enfin, il y a un truc où le fait d'apprendre des techniques et apprendre à comment gérer ton son ou avoir telle qualité de son ou aller chercher tel sample ou quoi va te permettre juste de dire ok, bon bah maintenant que je sais faire ça, en fait comment je l'utilise à bon escient et comme j'ai envie de l'utiliser. Donc c'est assez comment dire, c'est commun en fait comme travail, la technique et l'artistique la technique et la création va te perdre quand tu fais de la musique électronique, je pense.
Et du coup, moi, j'avais une question pour enchaîner là-dessus. Donc, tout à l'heure, tu disais que tu étais nourrie de plein d'influences, du métal, à plein d'autres choses. Et en fait, je voulais te poser une question aussi sur ton identité artistique et comment tu te situes dans le monde de la musique électronique. Parce que ton projet musical, de par tes influences aussi, il casse un peu les codes de la techno traditionnelle. Parce qu'il y a un engagement, un certain engagement du corps qui est plus prononcé que dans un set techno traditionnel, et tu proposes du coup un live qui se rapproche un peu du concert. Et qu'est-ce que ça implique pour toi en fait, justement en live, auprès des salles, voilà, et comment du coup tu te situes par rapport aux autres artistes de la musique électronique?
Alors dans ma tête, je me situe dans le fait que du coup j'ai du mal à trouver des sons que j'aime bien, déjà juste globalement dans ce que j'aime, et je pense qu'il y a... Il y a deux trucs en fait, c'est qu'il y a la réception publique et il y a la réception des pros qui vont te faire jouer, ou ouais, des salles ou de n'importe quel endroit qui veut te faire jouer en fait. C'est que d'un point de vue public, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui n'écoutent pas du tout techno, qui aimaient bien ce que je fais, toujours. Et d'un autre côté, il y a des gens qui adorent la techno et qui sont du coup un petit peu gênés par ce que je fais, parce qu'il y a de la voix, parce que je suis pas en train de faire un DJ, donc DJ set, donc c'est-à-dire que je vais m'arrêter au milieu, je vais te parler, enfin je suis pas en train de partir pendant 2 heures et puis tu fermes les yeux et il se passe plus rien. Donc ça, en termes de public, c'est intéressant parce que ça ramène des gens que tu pensais pas voir, ça fait partir aussi des gens que tu pensais voir, mais ça c'est pas très grave, parce qu'après il y a aussi la notion de propos qui fait que ça titille ou pas. Mais par contre, d'un point de vue pro, je pense que c'est pas forcément un problème quand tu parles de bars ou de petites salles ou des choses comme ça, ils sont assez ouverts. Par contre, j'ai l'impression que, par exemple, un exemple, je pense que je pourrais pas jouer en boîte.
Ouais.
Parce que je joue vachement, par exemple, juste techniquement sur mes panoramiques, c'est un truc que j'aime bien. les boîtes, ça diffuse en mono. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que bon, bah, y a la moitié de mon son qui passe pas dans les enceintes, tu vois, concrètement. Ouais. Et y a le truc aussi de, bah, il me faut de la place. Il me faut un minimum de place parce que j'ai un micro, j'ai pas juste des platines, j'ai un peu de matos. Même si globalement, je suis assez compact parce que comme je bougeais beaucoup avec le travail, j'avais tout de suite capté que si je voulais bosser partout, il fallait que je sois portative. Donc j'ai quand même travailler à ce qu'il n'y ait pas du matos trop lourd, du matos trop encombrant, des choses comme ça. Mais il y a toujours ma question du corps. Moi, j'ai envie de ramener de la performance. Alors après, je ne suis pas encore complètement à ce truc-là. Là, je vais y travailler prochainement et je suis en train d'y travailler. Mais juste, j'ai tendance à bouger beaucoup. je sais que mon corps parle assez facilement. Donc ça, dans l'absolu, ça pourrait ne pas être un problème si t'es derrière une platine, mais à partir du moment où tu cherches à aller chercher, enfin si tu cherches à aller voir les gens, à claquer un micro, donc avoir une corporalité, de venir devant une scène, de communiquer entre guillemets de près ou de loin avec un public, bah là ça pose problème. Là sur ce type de structure comme par exemple des boîtes, ça peut poser problème. Donc c'est un peu hybride sur ce truc-là aussi parce que c'est aussi un risque pour les programmateurs, je pense. Si tu peux pas me caler sur n'importe quelle soirée techno, tu peux pas non plus me caler sur n'importe quelle soirée concert. Enfin, tu vois, ils font un choix et pour le coup, je pourrais presque dire que c'est un choix politique de faire passer un truc comme ça aussi, ouais. Parce que tu prends un risque que ça énerve des gens ou ça fasse vraiment plaisir aux gens et que bon, ça, bon, après, je sais pas si c'est un risque de faire vraiment plaisir aux gens, mais juste tu dois t'organiser quoi. Enfin, j'ai besoin de balance par exemple, truc tout bête, mais qui a besoin de vraie balance quand tu fais de la techno en DJ set. Bon bah tu t'assures bien que tout fonctionne bien et que ça balance et puis c'est tout. Moi j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour gérer mon son, parce que je sais le faire, sauf qu'à un moment en fait c'est pas tu peux pas faire les deux en même temps. C'est où t'es techos pour quelqu'un, ou t'es artiste et quelqu'un fait ta technique. Et à un moment, si tu fais les deux, tu peux pas vraiment mixer ta voix si t'es en train de t'entendre, en train de chanter. Enfin, il y a un moment, techniquement, c'est un peu compliqué. Donc, ça nécessite peut-être un peu plus de paramètres pour pouvoir jouer un peu plus sur des structures. Après c'est possible, hein, parce que je suis pas non plus à avoir 150 pistes, enfin ça va, hein, enfin je c'est possible de m'accueillir dans un bar, enfin si à partir du moment où t'as une petite mixette, c'est cool, tu vois. Mais ouais, ça pose cette question là de il risque d'avoir des petites problématiques de ok, j'aimerais bien jouer devant tel public, mais tel public joue à tel endroit. Du coup, bon, bah, si t'es suffisamment gros, entre guillemets, gros, tout est relatif, hein, mais peut-être que tu peux négocier, mais quand tu peux pas négocier ce genre de truc, ok, comment tu fais pour quand même passer ? Tu sais, c'est un peu. Il y a un peu une logistique qui doit se faire par rapport à ça, quoi.
Ouais, bien sûr. Oui, donc en fait, voilà, il y a la singularité de ta proposition artistique, même en termes juste techniques et tout ça. Enfin, vu que c'est assez hybride et tout. Et après, il y a aussi le propos, ce que tu racontes, qui ça aussi peut. Plus ou moins bien passé. Enfin, après, je te laisse prendre la parole, Pamela, si tu veux. Par rapport à ça, justement, et ta démarche.
Ouais. Au sujet de casser les codes et justement de cette singularité, quelle est ta démarche en tant qu'artiste queer ?
Oh bah, ma démarche... C'est drôle. C'est drôle parce que... Enfin, la démarche, elle est large, en fait. Enfin, je pense qu'il y a une démarche de... un peu salvatrice, quoi. Genre, si je fais des sons... Je fais des sons parce que j'ai besoin de les faire, en fait. D'un point de vue propos, parce que c'est des choses qui me titillent, c'est des choses qui m'énervent, c'est des choses qui m'angoissent, c'est des choses qui justement me font beaucoup de bien. Et je pense que ça se sent, d'ailleurs. Il y a des gens qui aiment aussi ce que je fais, pas forcément parce qu'ils aiment ce que je fais, parce qu'ils aiment ce que je renvoie, je pense, enfin, en termes d'intention. C'est assez j'essaie d'être assez brut sur ce que je raconte et d'être assez clair, parce que je suis pas quelqu'un qui aime le débat pour débattre. J'aime pas les avocats du diable, j'aime débattre, mais j'aime pas quand c'est, donc le fait d'avoir un propos qui est clair, tu peux pas trop tu peux venir me parler, mais tu peux pas trop remettre en question ce que je te dis ou pas, ce que tu veux, pour faire chier, entre guillemets, quoi. T'es obligé de prendre le truc. Après, tu le prends bien, tu le prends pas bien, ça c'est encore une autre question. Mais t'es obligé de te le prendre. T'es obligé de te le prendre, quelle que soit la manière dont tu te le prends. Et ça, c'est un truc que je trouve intéressant, parce que ça, c'est une démarche que j'aime bien, parce que tu mets les gens dans leur retranchement, dans un point de vue positif comme négatif. Donc tu peux complètement chauffer les gens et c'est content, ou tu peux énerver profondément des gens parce que ton propos, c'est un peu sur eux, quoi. Tu vois, et c'est un peu sur eux, et ils n'assument pas forcément le truc, ou ils se sentent concernés alors qu'ils ne devraient pas. Enfin...
Ouais, ou ça dérange.
Ouais,
ou...
voilà, il y a un truc. Puis voilà, c'est con, mais avoir. C'est toujours la même histoire, avoir un corps queer. Femme cis, mais quand même relativement androgyne. En fait, juste le moi, j'ai vachement conscience que mon corps est politique. Dans la rue, ça m'arrive tout le temps, en fait. Enfin, je me fais tout le temps mégenrer, je me fais tout le temps aborder comme si j'étais un gars. Et en soi, ça serait pas forcément un problème si ça n'implique pas tout un truc systémique derrière qui donne des idées, des stéréotypes, des permissions à des gens ou quoi que ce soit. Mais... du coup, il y a un peu ce truc-là où tu sens que ça énerve parfois juste parce que t'es là. Juste parce que t'es là et que pour eux, tu devrais pas être là. Parce que c'est pas ton droit d'être là. Sauf qu'en fait, si, c'est mon droit d'être là. Et c'est clairement une nécessité que je sois là autant pour... alors, quand je dis « je », ça peut être pour n'importe quel artiste, hein, mais y a une nécessité de visibilisation, de représentation et de choses qui sont un peu dissidentes aussi en termes de propositions, d'avoir des choses qui sont plus... Qui sont moins normés dans le sens mainstream du terme, d'avoir des prises de risque, des sonorités qui sont un peu différentes. Il y a que comme ça, en fait, je pense qu'on peut ouvrir le cerveau des gens aussi, quoi. C'est en leur montrant que il y a pas que ce que tu connais, il y a pas que ce que tu penses, il y a pas que ce que tu as envie de voir, en fait. Il y a aussi on est là et que tu as envie de nous voir ou pas, en fait, on est quand même là, donc fais avec, en fait. Tu vois?
Donc tu t'imposes un peu.
Ouais, il n'y a pas trop de choix, mais ça, je pense que c'est le cas pour toutes les personnes minorées, en fait, que ça soit pour des questions de genre, des questions de race sociale, des questions de pseudo-validité ou pas, enfin, en fait, question de pauvreté, enfin, en fait, toutes les personnes qui ne sont pas dans la majorité oppressive, entre guillemets, se retrouvent à devoir s'imposer à un moment ou à un autre, et c'est même pas s'imposer pour forcément... revendiquer des choses. Parfois, c'est juste s'imposer pour juste exister en tant qu'être humain et survivre pour plein de personnes, quoi. Donc, y a une nécessité aussi artistique de montrer que... Je sais pas, en fait, que c'est possible, sans même parler de succès en termes capitalisme. C'est pas un problème, tu vois, mais t'es obligé, en fait. T'es obligé de montrer aux gens que c'est possible d'être fier de ce que t'es et d'être fier de ce qu'on est en tant que communauté, quelle que soit la communauté dont on parle, et que vous avez rien à dire sur nos existences, en fait.
Carrément. Et du coup, à propos de propositions dissidentes, et pour en revenir à la musique, comment tu trouves ta place avec ces propositions dissidentes dans la musique électronique? Est-ce que tu rencontres des difficultés, etc.?
Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, pas forcément pour faire de la musique concrètement, mais parce que mon propos ou ma personne, parce que je sais pas, je parais sympathique ou je sais pas, viennent me voir pour avoir des choses, donc ça c'est cool. Après, d'un point de vue purement techno-électronique, j'ai des copains qui me contactent aussi pour faire des choses, mais c'est rarement sur des choses qui sont déjà calées en termes d'événements. C'est des gens qui veulent organiser des choses et qui ont une envie de faire des choses un peu différentes. Donc ça, c'est cool. Après, sur la place que j'ai, en fait, je pense que on en revient un peu au même truc. C'est que c'est une place qu'il va falloir prendre. C'est quand même un milieu qui est très hétéro, blanc, qui est très masculin, qui est très... Donc en fait, quelle que soit la partie de minorité sur laquelle dans laquelle tu es, en fait, dans tous les cas, il y a un peu ce combat de prendre ta place. Après, il y a un côté qui est sympa, c'est qu'il y a... ça commence à se débloquer après tant d'années de militantisme et de lutte acharnée. On finit par quand même se faire rendre compte qu'il y a un intérêt pour les programmateurs de nous programmer, pour des soirées de s'organiser de comme ça ou d'avoir une certaine diversité dans les propositions. Donc je pense qu'on va, quand je dis « on », c'est toute la communauté artistiquement, tu vois, avoir des propositions. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu fais de cette proposition, quoi. C'est, parce qu'avoir une place, ok, mais politiquement, ça peut être intéressant de prendre la place et d'en faire un truc que ces personnes-là n'attendaient pas, en fait, et qui peut, du coup, politiquement imposer une certaine posture ou une certaine... place, du coup, politique qui, là, peut être intéressante, quoi. Jouer du mainstream pour imposer une vision un peu dissidente, ça peut être intéressant, quoi. Mmh.
Et on parlera aussi plus tard de la responsabilité politique de l'artiste et aussi de la musique queer dans le milieu des musiques actuelles aussi en ce moment, enfin aujourd'hui. Mais moi d'abord j'avais une dernière question concernant ta propos musicale avant de passer du coup un de tes sons. Une question par rapport à la voix. Parce que donc toi tu utilises un voice transformer pour modifier ta voix. Et donc Soul of Bear, c'est vrai que c'est aussi cette voix un peu inquiétante, un peu troublante, grave, presque robotique. Et enfin moi je trouve que voilà, on sait pas bien d'où elle nous parle, mais elle est bien présente et bien entêtante, et je la vois un peu comme un personnage à part entière. Et du coup, pourquoi choisir de déformer ta voix dans tes morceaux?
Alors je pense qu'il y a, juste déjà le fait que j'aime les voix transformées mais qui ne sont pas forcément de vocodeurs ou des choses comme ça. J'aime les voix qui viennent un peu du très fond, de je sais pas quoi, très grave. Bon après ça correspond aussi à mes habitudes d'écoute. Enfin j'ai une voix grave aussi donc je pense que il y a un peu une corrélation entre ces deux trucs quoi. Mais historiquement il y a aussi le fait que bah justement comme j'ai une voix grave, j'ai fait beaucoup de zik quand j'étais petite et j'avais pas mal de moments où je devais chanter tout ça, et j'ai beaucoup chanté avec les mecs du coup parce que bah j'étais plus proche du ténor que de la que des altos. Je suis contralto en fait techniquement, donc c'est la voix la plus grave chez les femmes. Enfin ouais. On va parler de cette chose qui risque d'être mise en question ouais. dans ces prochaines années, puisque en fait là on parle des catégories très cis normatives finalement, donc qui sont assignées. Mais donc voilà, j'ai passé beaucoup d'années à chanter avec des mecs, ce qui était très cool parce que du coup ils étaient très bien avec moi. Mais il y a un peu, ça a un peu créé un complexe aussi de se dire bon bah en fait ma voix elle est peut-être ma voix parlée c'est cool, mais ma voix chantée en fait du coup t'as un peu le complexe de dire bah elle est pas tout à fait normale, sinon je serais pas dans la catégorie qui n'est pas censée être la mienne. Enfin tu vois, puis tu te retrouves avec des enfin, les profs, les gens, les gens qui t'éduquent et tout ça sur ça sont aussi normés. Donc, en fait, ils ne te donnent pas forcément la confiance sur ça en te disant que, bah, en fait, c'est pas grave, on s'en fout. T'as une voix et puis c'est tout, en fait. Mm-hmm. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à utiliser ma voix. J'ai perdu beaucoup de temps, malheureusement, à ne pas vouloir utiliser ma voix. C'était un truc qui m'angoissait vachement et c'est un truc que je me sentais pas légitime, des choses comme ça. J'avais du mal à assumer ma voix, chanter du moins, parce que parler j'ai jamais eu de souci avec ça, mais chanter. Donc il y a eu le moment de bon bah je fais de la techno c'est bien, j'ai envie de faire du live c'est bien, j'ai envie de revendiquer des choses c'est bien, mais du coup comment je fais pour revendiquer des choses explicitement si j'utilise pas ma voix? Tu vois, il y a un moment où tu t'as beau écrire un grand texte en dessous de tes chansons, s'il y a deux pélos qui le lisent alors que toi, t'as mis toute ton âme dedans, ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc, il y a eu la question de, ok, bon, bah, je vais mettre ma voix, sauf que j'assume pas ma voix. Donc, ah, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Et j'aime bien les voix transformées un peu bourrines. Donc, il y a eu le voice transformer et qui m'a bien aidé à bien déconstruire, juste aussi la capacité de ok, t'entends pas ma voix réelle, par contre moi en fait je t'envoie quelque chose avec ma voix réelle derrière un micro, donc ça d'un point de vue corporel et de ressenti, ça a travaillé le fait que j'ai un peu plus assumé ce que je devais balancer. Après il y a eu le fait aussi que il y a une nécessité politique de ok, j'ai mes revendications, donc en fait faut que je les balance quoi. Il y a le truc de il n'y a pas à turlupiner dans tous les coins. Il y a un moment où si j'ai des trucs à dire, il faut que je les dise. Donc c'est ça. Et là, récemment, entre guillemets, je commence vraiment à débloquer le truc. Et il y a une des chansons, la dernière qui vient de sortir, où je n'ai pas de voice transformer, justement. Et là, je suis en travail un peu psychologique et concrètement, pour prendre des cours de chant, prendre du coaching vocal, parce qu'en fait, du coup, j'ai appris à chanter avec un voice transformer, mais du coup, le voice transformer, c'est super, mais en même temps, tu peux pas tout faire pour que le voice transformer sonne correctement. Donc, j'ai aussi un peu lissé ma façon en termes de nuances dans ma voix pour que ça marche. Donc, maintenant que j'ai plus le voice transformer ou que je ne vais plus l'utiliser autant. Maintenant il faut développer mes nuances vocales en tant que telles et mes capacités vocales et juste la technique vocale que je peux avoir quoi. Donc ça c'est un peu l'étape qui va suivre par rapport à ça.
Ça marche, et du coup je vous propose d'écouter la dernière track qui vient de sortir. Nous sommes...
Nous sommes... Nous sommes, nous sommes, nous sommes. Tu
crois que l'on sort de nulle part, que nos vécus n'ont jamais existé. Tu crois que l'on sort de nulle part, que nos vécus n'ont jamais existé. Il est temps que tu regardes l'histoire en face. Il est temps que tu regardes l'histoire en face. Je suis descendante des corps que t'as brûlés. 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 Nous sommes queer. Nous sommes queer. Nous sommes queer. Nous sommes. Tu crois que l'on sort de nulle part, que nos vécus n'ont jamais existé. Tu crois que l'on sort de nulle part, que nos vécus n'ont jamais existé. Il est temps que tu regardes l'histoire en face, face. Il est temps que tu regardes l'histoire en face. Il est temps que tu regardes l'histoire en face, face. Il est temps que tu regardes l'histoire en face. Je suis descendante des corps que t'as brûlés. 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 Queer. Nous sommes queer. Nous sommes queer. Nous sommes queer. On va réécrire l'histoire et faire pour que la tienne. On va réécrire l'histoire et faire pour que la tienne brûle. On va réécrire l'histoire et faire pour que la tienne brûle. Brûle. On va tout brûler. On va tout brûler de la même flamme qui t'a servi à brûler nos ancêtres. On va tout brûler. On va tout brûler dans la même flamme. On va tout brûler. On va tout brûler dans la même flamme. On va tout brûler. On va tout brûler dans la même flamme qui t'a servi à brûler nos ancêtres, à brûler nos ancêtres, à brûler nos ancêtres. On va tout brûler. On va tout brûler dans la même flamme. On va tout brûler. On va tout brûler dans la même flamme qui t'a servi à brûler nos ancêtres, à brûler nos ancêtres, à brûler nos ancêtres. Nous sommes queer. Nous sommes queer. Nous sommes. On va tout brûler. Flamme. On va tout brûler. On va tout brûler dans la même flamme qui t'a servi à brûler nos ancêtres, à brûler nos ancêtres, à brûler nos ancêtres. Nous sommes queer. Nous sommes, queer. Nous sommes. Nous sommes.
Et c'était Nous sommes, la dernière track de Soul of Bear qui est sortie il y a même pas un mois, si je me trompe pas, Camille.
Oui, alors j'ai pas la date exacte, mais oui, c'était il y a pas si longtemps que ça.
Ouais, j'ai vu sur SoundCloud, elle est sortie il y a 20 jours sur les disques du lobby. Voilà, on en parlera plus tard. Et du coup, alors maintenant, sans transition, je vous propose qu'on s'écoute un petit texte que tu as écrit et enregistré, Camille, à l'occasion d'une ligne ouverte spéciale danse le 10 février à Radio Moulin. Et nous avions diffusé cet extrait pour parler de la fête et de sa nécessité politique. Du coup, on écoute ça tout de suite.
Sommes-nous vivants lorsque nous n'arrivons plus à faire le lien entre nos têtes et nos corps ? Sommes-nous capables de vraiment nous sentir lorsqu'il devient nécessaire de garder l'autre à distance? Sommes-nous en vie lorsque la musique s'arrête pour laisser place au silence? À l'image du monde de la fête, nos sourires se sont ternis. Ils déclinent, nuit après nuit, pendant que jour après jour, les mains de l'État se resserrent autour de nos cous, de nos crânes et de nos voix. On suffoque. On suffoque et pourtant... Au plus profond de nous-mêmes, quelque chose se trame, s'organise, se construit, se reconstruit, se révèle. L'instinct de survie sort les crocs. La lutte reprend ses droits. La fête est à nouveau politique. Autogestion, union, bienveillance, adelphité, respect de la nature et de nos êtres, connexion à nous-mêmes et aux autres, revendiquer nos droits, politiser nos corps, nos présences et nos actions, lâcher prise, rire, danser. Voici les bases critiques d'un mouvement radical que l'État n'a jamais voulu accepter. Quand les habitués des clubs débarquent en teuf, c'est que la frontière entre légalité et subversion devient poreuse. C'est le signe d'une connexion entre deux mondes qui semblent s'opposer. C'est aussi la preuve qu'on a touché le fond en matière de précarité, qu'elle soit émotionnelle ou physique. C'est pour ça, exactement pour ça, que l'instinct de survie continue de nous tendre et que la lutte s'amplifie. La fête est libre, elle est politique, et elle le restera.
Donc voilà, quand on avait diffusé cet extrait la dernière fois, le 10 février, tu n'étais pas là, on avait juste diffusé l'audio. Et en fait, on aurait aimé à ce moment-là avoir un petit, je sais pas, un petit commentaire, un petit retour. Alors peut-être que tu veux en parler maintenant et tu veux revenir sur cet extrait qu'on vient d'entendre.
Ouais, enfin, le monde de la teuf, c'est un truc que je connais d'avant, que je pratique plus trop, mais que j'avais avant. Les clubs, c'est pas un truc que je pratique vraiment, mais il y a vraiment. C'est un peu deux mondes vraiment différents, comme je le dis, et c'est intéressant parce que il y a vraiment le côté légaliste et illégal en fait, qui se pose, et aussi la façon dont on consomme, que ce soit la musique, les drogues ou n'importe quoi, enfin, en fait, ou juste la façon qu'on consomme nos relations dans le sens où on est avec des gens. Il y a des choses qui sont très différentes entre ces deux mondes-là. Et en fait, tu te rends compte qu'actuellement, encore un exemple au 1er mai, juste poser une enceinte et danser 10 minutes, c'est déjà politique en fait. Et c'est dramatique dans un sens, que tu te dis, bon... Danser, t'as juste envie de dire, bon bah voilà, on est juste en train de faire la fête quoi. Mais non, c'est déjà une revendication politique au vu de tout ce qu'on subit en termes d'oppression ou de répression en fait. Et c'est la fête, elle a déjà été politique, elle a toujours été politique, mais il y a un revival un peu de ce truc-là où tu sens une nécessité, parce que si on en vient à être dit pélo à danser à JB Leba sur une enceinte et qu'on est déjà en train de dire que c'est politique, c'est qu'il y a un problème en fait en termes de gestion politique et étatique de ce type de situation. Et je, à mon sens, la culture, quelle que soit la manière dont on l'exprime, mais c'est une nécessité du corps. On a besoin en fait d'avoir de la culture, que ça soit de la danse, du chant, de l'art en général, même des bars, des salles de concert, tout comme ça. Enfin, t'as une nécessité. Enfin, on est tellement précaire encore maintenant, je trouve, émotionnellement. Enfin, la question de la santé mentale des gens cette année, et encore plus dans les communautés queer où les personnes minorées par notre société. En fait, enfin, on se prend des choses de plein fouet et on devrait en plus rester chez nous et ne rien faire et rester à travailler tranquillement. Enfin, il y a un moment, c'est un besoin corporel. Les gens, ils font ce qu'ils ont besoin de faire et tu te rends compte que, bah, en fait, ils ont juste besoin de danser, quoi. Et je trouve ça chouette et en même temps dramatique.
Carrément.
Et du coup, à propos de revendications, justement, Pourquoi ce choix d'intégrer des sons de manif dans tes morceaux ? Et en quelque sorte, tu souhaites prendre la parole, mais tu souhaites aussi la donner ?
Alors, les sons de manif, c'était une envie un peu de faire un peu différemment, de donner une revendication qui ne soit du coup pas forcément dans ma voix, qui sont des revendications que je partage, mais qui donnent un effet plus global et plus universel, entre guillemets, quoi. Et en fait, ça... C'est pas si c'est le bon mot, mais je trouve ça assez logique, parce qu'en fait, comme j'ai des paroles qui sont quand même très... très carrés, qui sont scandables. Moi, quand je disais que j'écoutais du métal, j'écoutais énormément de hardcore et de deathcore, qui sont l'équivalent un peu des punks des cités des années 80 aux États-Unis. Donc, en fait, il y a un truc où tout le monde doit scander ce truc-là, et tout le monde chante au refrain, et tout le monde. Et c'est un truc, moi, qui me plaît vachement. Tu sens l'énergie des gens, et c'est un peu ce qui se passe en manif aussi. Enfin, en manifestation, quand t'as vraiment des chants qui partent, bah, en fait, tu sens le truc, il est dans tes os, en fait, tu vois. Donc, j'aimais bien le fait de pouvoir faire une corrélation entre ces deux trucs-là et de les mixer sur un propos spécifique. Parce que, pour le coup, je pense que tu parles du dard. Mmh. C'était une envie un peu de parler de nos voix qui sont invisibilisées et volontairement effacées de l'histoire et qui mènent globalement à tout un tas de problématiques qui sont le viol, le féminicide et tout ce que tu veux, parce que on n'a pas accès à la parole et à la revendication de ce qui nous arrive, en fait. Donc ça me paraissait assez cohérent de mettre ça, et les gens sont assez réceptifs à ça, puisque du coup ils le chantent en manif maintenant, donc c'est assez cool. Donc c'est chouette.
C'est chouette.
Ça fait son cercle.
Carrément. Et d'ailleurs, tu abordes plusieurs sujets dans tes chansons. Enfin, dans tes sons plutôt.
Tu peux dire chanson, c'est pas grave.
En quoi c'est important pour toi de parler de plusieurs sujets comme ça, de pas compartimenter les sujets que t'abordes ?
Tous les sujets qui se retrouvent dans mes tracks sont des sujets qui me touchent de près ou de loin, alors que ça soit de façon conceptuelle, intellectuelle, et donc de revendication et de lutte, ou des choses qui me touchent personnellement, ou qui, de près ou de loin. Par exemple, je sais que je parle de transidentité dans une des chansons, je ne suis pas une personne trans. Par contre, je vis des discriminations que les personnes trans peuvent vivre, donc ce qui est dire le mégenrage, le fait que c'est perpétuel, le fait que tout ce qui est du coup attrait aux stéréotypes de genre, où tu vas avoir des mecs qui vont se permettre de me lancer des blagues ultra salaces parce qu'ils pensent que je suis leur poteau, quoi, en fait, en mode genre, mais non, non, ou qui se permettent de faire des réflexions sur mes potes parce que bah ouais, elles sont un peu trop belles ou je sais pas quoi, enfin ils se permettent parce qu'ils pensent pas que je suis une femme, ils se permettraient pas, tu vois. Après, en termes de sexualisation du corps aussi, enfin il y a quand même pas mal de situations où je me retrouve je suis le pote quand tu penses que je suis un mec, et ça devient compliqué quand les gens ces hommes là comprennent que homme cis je parle comprennent que je suis une femme. Il y a un truc qui est un peu de autant d'excitation que de dégoût, enfin c'est un peu, et ça c'est une question qui est très présente dans les communautés trans. Et donc c'est des sujets où je me sens assez proche, donc c'est, dans tous les cas, c'est des choses qui me touchent, sinon j'aurais pas besoin de revendiquer dessus. Après, c'est pas forcément des choses qui me touchent personnellement, mais en même temps, je sais pas, par exemple, je peux aussi parler de racisme ou des choses comme ça. Bah en fait, je pense que c'est un leurre de penser que parce qu'on est blanc ou parce qu'on est cis, on n'est pas concerné par ces questions-là, alors que justement, en fait, de façon... pas forcément individuellement, historiquement, tu vois, mais individuel, historiquement, mais de façon massive et historique et sociale, en fait, je fais partie d'une catégorie de personnes qui est oppressive. Donc c'est aussi ma responsabilité de changer mes comportements et de remettre à leur place les gens qui le font quand les personnes concernées ne sont pas là. Il y a un moment où c'est des sujets qui... On est tous concernés, en fait. On est tous concernés par l'ensemble de ces sujets-là. C'est juste qu'on a plus ou moins conscience que c'est le cas, et on a plus ou moins envie que ça soit le cas, je pense, pour certains. Mais voilà, enfin moi, c'est des sujets qui me touchent et qui me concernent Bah parce que je suis autant concerné par le racisme en étant blanche, parce que justement je fais partie de ce truc-là, ou je suis autant concerné par la transidentité en étant cis, parce que c'est aussi notre responsabilité en tant que personne cis de changer nos codes et nos façons de faire pour ne pas participer à cette oppression, en fait. Enfin, tu vois, c'est... Je pense qu'on devrait tous se poser des questions sur des choses qui ne nous concernent pas directement dans nos corps, quoi.
Et à propos de déconstruction, j'ai entendu ton titre, le Dard, comme une déconstruction de la culture du viol. Je vous propose qu'on l'écoute maintenant.
Vous nous accusez de planter notre Dard lorsque nous pratiquons l'art d'ouvrir notre bouche. L'histoire en est témoin. Vous êtes coupable lorsque nos voix traversent la foule.
Radio Moulin.
Radio Moulin.
Installez-vous. Vous êtes bien sur Radio Moulin.
Prenez le micro.
Prenez le micro. Alors, vous venez d'entendre le Dard de Salle of Bear sur Radio Moulin. Vous êtes toujours sur Radio Moulin. Juste avant de passer ce son, on parlait de la parole qui était individuelle, mais qui abordait des sujets collectifs, finalement, des sujets qui sont propres. à tous ou à une communauté, etc. Et on abordait la question aussi de la représentation. Alors, du coup, là, j'ai une question qui est un peu brouillon, mais je vais quand même la poser. Je trouve que ta musique a un fort effet cathartique, comme on le disait aussi en introduction. On le disait aussi, elle est écoutée en manif. Les paroles sont cash, simples à chanter, faciles à scander, à mémoriser. Et du coup, voilà, tu disais en plus en off là, que tu utilisais très peu le jeu, et ça a son importance aussi. Est-ce que cet appel du collectif fait partie de ta démarche ?
Je pense qu'à partir du moment où je raconte pas ma vie et que c'est plus des délires politiques, forcément ça ne touche pas que moi. Donc il y a un truc où si moi je balance mon intention, si je balance ce que j'ai envie de dire, on en revient à la réception de comment les gens le prennent sur eux. Et en fait, bah, quand on parle de communauté, notamment des communautés queer, bah, je pense qu'il y a un effet, presque libérateur dans le sens où on est beaucoup et on est là et c'est cool et on parle de nous et de nos revendications et du coup, bah, ça envoie les gens, ils sont contents en fait. Enfin, ça aide. Enfin, on est quand même très haineux, pardon. Il n'y a pas de liaison avec le H. Mais voilà, on est en colère, en fait. On est en colère, c'est normal. Enfin, quand on voit le poids des siècles et de l'oppression qu'on a, en fait, c'est normal qu'on soit en colère. Mais parfois, ça fait peur d'être en colère et on a l'impression d'être seul quand on est en colère. Donc, ça peut être intéressant de voir qu'en fait, bah, on n'est pas tout seul à être en colère et que collectivement, c'est libérateur, en fait, de claquer cette colère-là dans des espaces comme des espaces de concert ou de manifestation, d'ailleurs, même hors musique, enfin, manifestation, c'est aussi un peu ce qui se passe. Tu lances un chant et t'as 2000 personnes qui le chantent et tu sens que ça fait plaisir et que tu sens qu'il se passe quelque chose dans ton corps. Bah, en fait, c'est un peu le même principe. Le fait qu'il y ait des paroles qui sont assez simples, bon, bah, ça aide à être scandé plus facilement, ça c'est clair. C'est pas un truc que j'avais réfléchi en amont, c'est juste un truc que moi je ressens comme ça et oui. J'ai envie de te claquer des choses comme ça et il se trouve que ça claque bien dans le cerveau des gens apparemment. Mais il y a un côté empouvoirant, en fait, je pense, de pouvoir avoir un son communautaire fait pour la communauté, par la communauté, et qui parle des sujets qui nous concernent et qui nous oppressent. Je pense qu'il n'y a pas encore 50 milliards d'artistes qui font ça. Il y en a plein, mais il n'y en a pas encore 50 milliards, et que ça manque, et qu'il y a un besoin de ça. Mmh. Donc, vas-y.
Ouais, pardon. Toi, t'en écoutes, du coup, des artistes... comment dire, qui t'inspire à ce niveau-là, tu pourrais peut-être en citer, tu penses ?
Bah, ça, c'est un peu mon souci. J'essaie d'aller gratter un peu des infos un peu partout sur qui fait quoi. Bah, d'ailleurs, la plateforme sur laquelle j'ai sorti Nous Sommes mm-hmm. est super pour ça, parce que c'est les disques du lobby mettent uniquement en valeur des personnes queer.
Ouais.
Donc, en fait, il y a tous les genres, tous les styles, il y a tout ce qu'on peut trouver en diversité musicale, fait que par des personnes queer. Donc ça, c'est intéressant, parce que je peux aller piocher dedans, après t'aimes ou t'aimes pas musicalement, tout ça, mais déjà, de base, il y a un truc où il y a un peu les copaines et la commu qu'on peut aller voir, quoi. Donc ça, c'est quand même cool. Et voilà, après, chez moi, c'est compliqué, parce qu'il y a aussi la question de ce que j'aime musicalement, et c'est très compliqué de trouver des trucs qui me font vraiment vibrer. Après, c'est très personnel, mais mes exigences en termes de créativité, d'intention et d'explicite, enfin, le fait que ça soit explicite, réduit un peu le champ des choses que je peux trouver. Mais je sens que ça vient. Il y a de plus en plus de choses qui m'intéressent et qui viennent sur le tapis. D'ailleurs, je suis très mauvaise pour retenir les noms, c'est très dommage, je ne pourrais pas te donner beaucoup de références. Mais peut-être que je pourrais t'en donner et en chercher, et tu les noteras en dessous.
Ouais, on peut faire ça.
Je pense qu'il y a une nécessité. Tu sens, enfin, en fait, si les gens réagissent comme ça, c'est qu'à un moment, tu as touché un truc. Enfin, moi, je ne pensais pas du tout, quand j'ai fait mes trucs. Je n'étais pas en train de me dire, je veux que les gens chantent ça en manif, je veux que les gens réagissent comme ça à tel truc. L'exemple le plus flag que j'ai, c'est avec une chanson qui s'appelle Mansplaining, que j'ai créée suite à l'affaire Polanski et tout ça, en reprenant les paroles de Dépente, quoi. Donc, ouais. On se lève, on se casse, on gueule et on vous emmerde. Et je l'avais jamais fait, hein, jusqu'au moment où je l'ai fait en live, en fait. C'est une musique qui m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai créée, qui m'a saoulé très très vite parce qu'elle est très répétitive. Et le jour où je l'ai claqué en live, les gens étaient fous. Et c'était beaucoup de femmes, ouais, et de queer. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, putain, moi, c'est celle-là, elle commence un petit peu à m'embêter. J'en ai un peu marre, tu vois, de cette chanson. Et là, tu la claques en live. Et bah, c'est ta chanson rappel. Les gens sont complètement à fond dessus. Et t'es en mode, bah ouais, en fait, celle-là, tu okay, t'es en train de libérer un truc collectif, t'avais pas prévu, quoi. Donc ça, c'est assez cool.
Carrément. Et ouais, justement, ça me fait penser à cette question-là de la réception du public, de ton public. Donc il y a ce truc aussi qui est très, enfin qui fout le feu, qui est très engageant en fait pour le public qui reçoit cette musique. Et après, enfin tu me disais aussi quand on a pu en parler par ailleurs que ta musique elle pouvait parfois déranger, enfin troubler, voilà certaines personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que pour toi c'est important? Enfin en fait, voilà, moi si je peux donner mon avis, je pense que c'est important qu'une performance, qu'une œuvre artistique questionne, dérange. Mmh. Et comment toi est-ce que tu le sens?
Bah moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que à partir du moment où tu parles d'art, il y a pas forcément de consensus en fait. Enfin c'est si tu balances un truc encore plus, il y a une question politique, les gens sont pas d'accord avec tout le monde et c'est comme ça quoi. Après il y a je pense qu'il y a deux pendants dans ce que je fais, c'est qu'il y a d'un point de vue purement musical, c'est je pense que ça met parfois un peu en galère certaines personnes parce que on va avoir un concert techno mais en fait il y a la voix, tu vois, ils sont un peu ils savent pas trop exactement où se placer sur ça, donc après t'aimes ou t'aimes pas, il y en a qui vont aimer mais il y en a qui vont pas aimer, ça c'est tout, c'est les appréciations de chacun et de chacune. Mais après en termes de propos c'est clair que ouais il y a des gens que ça gêne et tu sens que ça les gêne quoi. Tu sens que ça les gêne et c'est bien parce qu'en fait parfois quand t'es gêné, moi ça m'est déjà arrivé d'être gêné sur des choses en concert ou devant des choses et enfin devant des performances comme ça, et en fait bah si après faut vouloir faire le travail, mais ça peut te permettre de te poser la question de pourquoi ça me gêne, et pourquoi ça me gêne, bah parce que ça réveille ça en moi, et en fait c'est quoi par rapport à ma construction, donc ça c'est super. Par contre il y a aussi les gens qui vont juste se sentir gênés ou énervés, et pour le coup heureusement il y en a plein qui font pas ça, mais il y a beaucoup d'hommes cis hétéros notamment qui se sentent un petit peu violentés par ce que je dis, parce qu'on leur a pas appris à arrêter de se mettre dans une catégorie dans laquelle ils sont pas non plus. Enfin, c'est les mêmes personnes qui te sortent des Not All Men alors que c'est pas des agresseurs. Bah, juste arrête de te mettre dans une catégorie que tu n'es pas en fait. Enfin, ne protège pas des gens qui, si t'es pas dans leur clan, quoi. Enfin, juste, c'est juste oppressif et inutile, quoi. Donc il y a un peu ce truc là, je pense qu'il y a un travail à faire pour certains. En termes de réceptivité sur eux-mêmes, dire ok, bon bah ça parle de ça, mais aussi se mettre en question, ok, bah est-ce que moi je rentre dans cette catégorie dont cette personne parle, est-ce que quand elle dit les hommes ou quand elle dit les blancs, en fait, est-ce que la problématique qu'elle met en avant, est-ce que ça me touche, est-ce que je fais ce truc-là, et si c'est pas le cas ou si c'est le cas, ça peut permettre une réflexion sur soi-même et sur ses comportements, et je pense que c'est utile en fait, même si sur le coup t'es vénère et que t'as envie de casser la gueule à quelqu'un et que tu vas te casser et que t'es pas bien, et c'est pas grave en fait, t'as le temps d'après d'intégrer si t'as le temps d'incuber quoi, un peu quoi. Enfin, c'est une nécessité, si t'es à l'aise avec tout ce qui se passe et avec tout ce qu'on te propose en fait, est-ce qu'il y a un risque qui a été pris, est-ce qu'il y a une utilité, est-ce que ce qui est proposé, si t'es toujours à l'aise. Enfin, la malaisance est un bon signal de questionnement, je pense, de début de questionnement, quoi.
Complètement. Eh ben, merci beaucoup, Camille. Avant de passer à la dernière partie de cette émission, qui est un petit peu ton actualité, c'est quoi la suite et tout, on s'écoute l'avant-dernier morceau, justement, dont on parlait, il me semble, tout à l'heure, « Capitalist Racism ».
Racist. Fool. Selfie.
fait pleurer. Le ciel de poussière. Fucking racist. Fait tomber des cendres sur terre. Ces cendres sur terre.
Open your eyes. This is your fault. a fucking genocide. You destroyed the ecosystem that we are. This fucking ecosystem. You destroyed the ecosystem that this is. A fucking genocide.
On vient d'écouter Capitalist Racism, un titre en feu. Ça donne envie de se lever et de faire la révolution.
C'est gentil.
Les acteurs des musiques actuelles commencent à comprendre qu'il faut surfer sur la vague. Et ils mettent en avant de plus en plus d'artistes d'identité queer. Comment tu te positionnes par rapport à ça ?
Moi, je pense que toute place est bonne à prendre si eux, ils trouvent un intérêt en termes de programmation ou de monétaire, de caler ce genre d'artiste. Bah, en fait, prenons la place et faisons ce qu'on a envie de faire une fois qu'on a la place, parce qu'ils pourront jamais nous couper les micros en plein milieu d'un concert pour nous interdire de dire ou faire des choses. Donc, en fait, je pense que éthiquement, je sais pas si c'est un truc que je trouve cool, parce que c'est un peu l'utilisation de nos identités à des fins capitalistes ou culturelles, ou choses comme ça. Mais concrètement, en fait, on a besoin de visibilité, on a besoin d'être représenté pour aussi bouger les lignes sociales. Enfin, il y a un moment, plus tu vois des gens qui sont différents de toi faire des choses, plus à rendre dans ton commun intellectuel, dans le sens où c'est possible que ces gens-là fassent des choses, quoi. Donc pour les communautés queer, pour n'importe quelle autre communauté qui ne soit pas majoritaire, en fait, bah, y a une nécessité d'être visible, et c'est une manière d'être visible. Donc moi, je suis assez... bon, après, à analyser à chaque fois quand on te propose quelque chose, mais globalement, pas forcément dire non par principe, quoi. Il y a un moment où si t'offre une place, même si c'est pour de mauvaises raisons éthiquement pour toi, bah en fait, ça te permet quand même d'avoir une place et de claquer ce que t'as envie de claquer, et d'embêter les gens que t'as envie d'embêter, et de mettre mal à l'aise les gens qui ont besoin d'être mal à l'aise, tu vois, et de libérer les gens qui doivent être libérés s'ils ont envie de le faire à ce moment-là. Ça a un intérêt, politiquement, ça peut être intéressant. Du coup, tu prends la place. Tu prends la place qu'on te file, et t'en fais ce que t'as besoin de faire, quoi.
Parce qu'il y a une nécessité de représentation, comme tu disais aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour revenir sur ton actualité, tu es lauréate du dispositif Tour de Chauffe. Alors,
tout
bravo.
Tout à fait, merci. Je suis contente aussi.
c'est quoi la suite pour toi ? Qu'est-ce que ça va te permettre, Tour de Chauffe, et comment ça va se dérouler là, l'année
Alors, ce que ça va me permettre, c'est d'être suivi par des professionnels, que ça soit scénique, lumière, son. Apparemment, il va y avoir des coachs vocales aussi, donc ça peut être cool. Moi, je sais pertinemment ce que je veux dans ma tête. C'est-à-dire que là, mon but, c'est oui, bien sûr, artistiquement, en termes de musique, bien sûr que j'entendrai les retours et tout ça, mais il y a vraiment un truc corporel, dans le sens où je veux utiliser cette opportunité-là pour développer mes capacités corporelles, scéniques, de performance, pour que derrière, en fait, y a un vrai upgrade par rapport à mes lives. Et je sais pas si c'est une réalité, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que les gens vont pas tomber par hasard sur Mazik. Je pense que les gens viendront écouter Mazik s'ils m'ont vu quelque part. Et s'ils m'ont vu quelque part, ça veut dire qu'il y a un live. Et s'il y a un live, ça veut dire que moi, je balance une perf. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'optimiser et de développer cette compétence-là précise du corps. Qu'est-ce que je fais avec mon corps ? À quel moment je classe des trucs pour appuyer mon propos, pour que l'intention passe au maximum et que les gens reçoivent au maximum et interprètent comme ils l'entendent derrière. Mais, donc ça, c'est mon objectif. Donc là, début juillet, avec l'équipe de Tour de Chauffe, je vais devoir faire un live de 30 minutes pour avoir une analyse scénique, une analyse artistique par des pros, pour un peu guider, pointer les soucis, pointer ce qui pourrait être amélioré, patati et patata. Et j'enchaînerai la semaine du 14 juillet sur une semaine de résidence pour travailler ça. Justement, donc tout ce qui aura été noté pendant cette première session début juillet, pour améliorer et professionnaliser la performance que j'essaie d'avoir, en fait, enfin, de sonner pro, de paraître pro, parce que c'est une nécessité d'avoir un truc qui est intéressant à regarder, et un truc qui a un intérêt scénique, en fait, tout simplement. Casser aussi ce truc-là de techno, où les technos sont derrière les DJ sont derrière leur truc, fume des clopes et bouge les bras et il se passe rien. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de casser ce truc-là et de créer un espace concert de la musique techno. Et ça fait partie de, du travail à faire qui est le corps et aussi le pluridisciplinaire. Moi, je m'imagine assez bien. D'ailleurs, on avait un peu un projet comme ça avec une personne qui s'appelle Nix Hammer qui fait du drag king. Faire de pluridisciplinaire, faire venir des gens qui perfent sur mes sons, faire venir des artistes qui font des choses corporelles aussi et qui peuvent du coup être intégrés au projet de façon ponctuelle ou sur des moments précis, des volontés précises de faire des choses. C'est toute la question du corps qui va se poser un peu cette année, de comment j'évolue sur ça.
Cool. Oui, parce que je le rappelle, du coup, Tour de Chauffe, c'est la 16e édition cette année. Et en fait, c'est un accompagnement artistique d'un an qui propose donc une semaine de résidence, des formations, coaching scénique, bilan scénique, etc. Un enregistrement, ouais. Il me semble, de 2 titres max.
Ouais, ouais.
Et du coup, la possibilité aussi, à la fin de l'année, de jouer pour le festival Tour de Chauffe. Donc voilà, on pourra te voir l'année prochaine.
La question, c'est visio ou pas?
Ouais, c'est ça, visio, zoom. Mais en tout cas, c'est très cool. Et merci beaucoup, Camille.
Ouais, merci, Camille, d'avoir participé à cette émission.
Et ben, merci à vous, c'était super.
Retrouvez Soul of Bear sur Insta et sur SoundCloud. Merci à Radio Moulin et à Emma pour la technique. Écoutez aussi les autres podcasts d'incitation à l'éloquence. Et pour en savoir plus sur les féminismes, découvrez le podcast Violette sur les ondes.
Merci beaucoup, Pamela. Et maintenant,
on se lève, on se casse,
on gueule, on vous emmerde avec Mansplaining. À bientôt sur Radio Moulin.
On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On vous...
emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde.